Code Philosophie Ethik de Père-Marie-Dominique Philippe, le 19 novembre 1999, à Saint-Gérard.
On a posé une question sur la question des rapports entre l'adoration et l'aspect politique. Je vous ai dit la dernière fois, et je crois que c'est juste, que l'adoration implique non seulement l'intention profonde de reconnaître Dieu comme créateur et de vivre de cet acte créateur en adorant. C'est la seule manière pour nous de vivre ces actes créateurs, c'est d'adorer. Vous voyez, c'est pour ça que c'est une réponse tellement particulière, l'adoration, qui ne s'adresse qu'à Dieu. Louer Dieu, le remercier, l'action de grâce, ça peut se faire à d'autres. Tandis qu'adorer ne se fait qu'à Dieu. Et c'est pour ça que j'étais toujours l'épreuve au début du christianisme. On voulait adorer César. Aujourd'hui, on n'adore pas César en chair et en os, mais on adore les idoles spirituelles et intérieures. C'est là la très grosse différence. Et c'est pour ça que le paraclet nous est donné, celui que le monde ne peut pas recevoir. C'est une adoration beaucoup plus intérieure. Tout ce qui empêche de reconnaître Dieu comme créateur nous empêche d'adorer. Et que l'adoration est au plus intime de notre cœur, la reconnaissance intime, personnelle, de cet acte propre de Dieu, cet acte libre, de cet acte pleinement gratuit, pleinement libre, que Dieu réalise pour nous, pour notre âme. Dieu crée notre âme. Mais notre âme est créée dans notre corps et à cause du rayonnement de notre âme vis-à-vis de notre corps, puisque notre âme informe le corps, notre âme détermine notre corps et lui donne sa finalité. Notre âme est l'acte, comme dit Aristote, l'acte du corps. Et donc donne au corps sa finalité. Le corps n'a pas de finalité sans l'âme. Et c'est pour ça que dès qu'il n'y a plus distinction de l'âme et du corps, tout de suite la finalité c'est le sport. C'est pour le corps. C'est très très curieux, mais c'est exactement ça. Vous voyez, dans la Rome antique, le sport était devenu un dieu. Et l'expérience tangible, j'étais à Paris le jour, une fois, où la France a gagné le football. Paris était dans un état d'ivresse. Vraiment un état d'ivresse. Comme si. Moi, j'ai pensé tout de suite au fait, à la fin de l'Empire romain, où le sport était devenu la finalité. Un pays est glorieux et glorifié si un de ses membres gagne et premier dans l'ordre sportif. C'est important de saisir ces choses-là pour ne pas tomber dedans d'abord. C'est très bien le sport, mais c'est quand même pas la gloire d'un pays. À moins que ce pays soit arrivé à ce que l'homme soit l'animal supérieur. Alors à ce moment-là, très bien. Donc, la gloire d'un pays, c'est pas le sport, c'est l'adoration. C'est de reconnaître que son pays reconnaît Dieu. Alors, par le fait même que le corps est lié à l'âme de cette manière si intime, si personnelle et individuelle, l'adoration demande de s'incarner. Et par le corps, l'adoration, qui est d'abord quelque chose de tout à fait personnel et intime, devient communautaire. Il y a une adoration communautaire. L'Église est le lieu où on se rencontre et où l'on adore Jésus comme Dieu, l'Eucharistie. Et on adore le Père. Et l'adoration demande cet aspect communautaire. Vous voyez, l'ermite peut adorer, mais il faut que l'ermite pense qu'il doit ne pas se séparer de l'adoration communautaire. C'est un devoir. Et l'ermite n'est pas une âme séparée. L'ermite chrétien, je parle, n'est pas une âme séparée. Et donc il doit, d'une manière ou d'une autre, se relier à l'adoration communautaire. Autrement, on aboutit à des choses qui sont plus très catholiques. Je l'ai remarqué, ça c'est une remarque personnelle. Bon, on se demande si l'ermite, c'était une question qui m'a été posée par une ermite. On se demande s'il faut descendre pour assister à la messe. Descendre pour assister à la messe, c'est quitter son ermitage. Et c'est tomber dans le point de vue communautaire. Ne vaut-il pas mieux rester ermite et adorer plutôt que de descendre à l'Eucharistie, où l'adoration est commandée par le Christ. Et c'est l'adoration des chrétiens. Parce que ces questions-là, on vous la posera. Hein. Et voyez, comme c'est important au plan philosophique de voir cela, que l'adoration, par le point de vue du corps, demande d'être. Alors, est-ce que j'ai le droit de me séparer jusque-là, au point de vue chrétien? C'est une question très importante. Jésus est mort sur pas la place publique de Jérusalem, en dehors de la ville, mais sur le lieu du crâne, un lieu public où les pauvres types, traités comme des esclaves, mouraient. Un homme libre ne pouvait pas mourir là. Or, l'Eucharistie est liée à la croix. Très bien d'avoir un très grand amour pour l'Eucharistie et de l'avoir chez soi, mais faisons attention. Comprenons qu'il y a l'adoration et que l'adoration implique un acte public, communautaire. Alors jusqu'où va cet aspect communautaire? Parce qu'il y a le communautaire religieux, le communautaire chrétien, il y a le communautaire politique, c'est sûr. Le corps me fait appartenir à une famille, la famille chrétienne, me fait appartenir à une communauté religieuse. Le corps me fait de moi partie politique. Fait partie. Alors je peux me vouer à Dieu, me consacrer à Dieu, et là me séparer de l'aspect politique. Autrement dit, l'homme solitaire n'est plus un homme politique. Est-ce que l'homme solitaire a-t-il le droit encore de voter? Ce sont des questions qui se posent et on doit se les poser. Il faut d'abord les regarder au plan proprement humain. Et peut-il se... Il peut se séparer du point de vue politique, de ses devoirs politiques. Il peut, en se consacrant à Dieu. Mais dans l'adoration, a-t-il le droit de se séparer du point de vue de la famille ? La famille chrétienne. Et l'assemblée de la famille chrétienne, c'est l'Eucharistie. Alors, je crois qu'il n'a pas le droit. À cause de son corps, il est toujours lié à la famille politique. Vous voyez, c'est la limite, ça. La solitude chrétienne, mais pas la solitude philosophique. Il faut être attentif à ça. Il faut faire attention. On a toujours le danger de notre tempérament qui aime bien la solitude. Si on aime les études, et les études intellectuelles, on aime la solitude. Alors, doit-on, peut-on se séparer jusque-là? Je ne crois pas. L'Eucharistie fait la communauté chrétienne présidée par le Christ. Et c'est le Christ qui la préside. Et donc c'est la famille. Et je n'ai pas le droit de me couper de la famille chrétienne. Je fais toujours partie de l'Église, en tant qu'ermite. Et donc, une religieuse qui vous pose cette question, vous lui dites, vous devez descendre pour la messe. Quittez votre solitude pour la messe, pour l'Eucharistie. Ne demandez pas à quelqu'un de venir chercher la communion et puis vous allez communier dans votre solitude. Ça fait rugir un peu quand vous dites ça à une solitaire. Parce que la solitaire veut la solitude absolue. Vous dites non. La vie chrétienne fait que nous sommes liés dans un devoir de charité avec nos prochains. Et ce devoir de charité... Premier devoir, c'est la communion, la communauté familiale autour de l'Eucharistie. Je crois. Alors, le philosophe, on est bien, le philosophe, parce que là, je fais appel à la foi, et à la foi chrétienne. Le philosophe, qu'est-ce qu'il peut dire? Le philosophe doit respecter la diversité des solitudes selon la vocation de chacun. Et le philosophe doit donc essayer de comprendre quelle est la solitude du chrétien, qui n'est pas la même que la solitude du musulman, qui n'est pas la même que la solitude du philosophe. C'est autre chose. Le philosophe doit respecter cette solitude-là. Et la comprendre. Mais en tant que philosophe, il ne peut pas la vivre. Il la vit en tant que chrétien. C'est important. En tant que philosophe, il doit adorer. Il doit reconnaître que son adoration par le corps implique une relation communautaire. Et il ne précise pas ce communautaire, parce qu'au plan purement philosophique, ce communautaire n'est pas déterminé. Il ne peut pas dire qu'il doit assister à telle ou telle date, le 14 juillet, il doit assister à une cérémonie civique, présidée par le maire. Non ? Parce que quand le maire n'est pas un homme religieux, ce qui peut arriver, ben, il ne peut pas présider un office religieux. Et si le maire était un bon croyant, alors il irait à l'office communautaire du chrétien. Et il n'y a pas de religion communautaire précisé par le point de vue purement humain et philosophique. Il n'y a pas de religion d'État. Vous voyez ? Les religions d'État sont toujours très dangereuses. Parce qu'elles conduisent à mettre l'État comme un idole. Et donc, le point de vue de la communauté religieuse reste une communauté religieuse, mais pas une communauté politique. Je crois. C'est important, parce que tout ça va se préciser. Hein. On m'a dit l'autre jour qu'une mairie française, signée non pas par la date du jour, ça c'est liturgique, mais par la date révolutionnaire. C'est-à-dire à partir du moment où l'État français est devenu république. Ça commence à se faire. Et pendant la Révolution, on voulait changer le calendrier. Et on reprend ça. Mais c'est toujours des petits signes de laïcisation. Alors, il faut qu'on soit très attentif à ça. Parce qu'il ne faut pas entrer dedans. Alors, pour chaque pays, c'est différent. Hein. Pour chaque pays, la question politique et religieuse prend des modalités différentes. Au Mexique, aux États-Unis, en Suisse, ça prend des modalités différentes. Et c'est intéressant de regarder ça au plan philosophique, pour voir s'il y a un débordement, ou bien si c'est juste. Et autrement dit, il y a un problème, puisque l'aspect religieux implique que le corps manifeste cette adoration, jusqu'où l'adoration comme telle va impliquer une réunion religieuse. Et jusqu'où elle ne le détermine pas. Le philosophe peut poser des principes, mais là, lorsqu'il s'agit du point de vue du passage du communautaire au point de vue politique, je crois qu'il ne peut pas déterminer. C'est normal, ça. Ça dépend de l'état dans lequel on se trouve. Si vous avez affaire à un état qui usurpe là-dessus, pour la laïcisation, ben, vous n'avez pas le droit de le suivre. Si vous avez un état qui respecte le point de vue religieux, et qui veut jusqu'à le respecter en disant « moi, je ne m'en occupe pas, mais je le respecte », la question se pose par rapport au mariage. Enfin, jusqu'où l'État peut-il bénir un mariage ? Bénir entre guillemets. Hein. Puisque nous savons que la fécondité est religieuse, puisque Dieu intervient. Qu'on l'accepte ou qu'on l'accepte pas, ça c'est autre chose, mais objectivement, au point de vue philosophique. Et tous ces problèmes viennent et doivent s'éclairer sur le point de vue de l'adoration. C'est l'adoration qui nous permet de voir dans quelle mesure l'aspect religieux réclame d'être communautaire. Et dans quelle mesure l'aspect religieux peut se cacher sous un point de vue, Dieu est un Dieu caché. Et l'acte créateur de Dieu, le créateur de mon âme, n'est pas une révélation de Dieu. C'est un Dieu caché, puisque je ne sais pas à quel moment Dieu intervient. Et c'est important de comprendre que l'éthique religieuse repose sur la réponse de l'homme à l'acte créateur de l'âme, donc qui reste caché. Dieu est un Dieu caché.
Donc il y a là un problème qui demeure entier. Puisque, de fait, je ne peux pas préciser. Mais je peux dire, et ça je crois qu'il faut le dire, que l'acte créateur, se poursuivant jusque par l'âme, jusque dans le corps, dans une unité personnelle et individuelle qui est substantielle, le point de vue communautaire, religieux, calomnié, reste un problème que je dois regarder. Je ne le précise pas puisque ça dépend des états. Chaque fois, il faut le réfléchir dessus. Et les rapports entre l'aspect politique et l'aspect religieux vont se régler dans la lumière de l'acte créateur de Dieu pour l'âme. Et tout le problème de la communauté, de la famille, est une communauté qui demande d'être religieuse. De fait, elle ne l'est plus dans certains pays. Elle reste religieuse, cependant. Elle a le droit de rester religieuse et de toucher là directement quelque chose que l'État, que la politique doit respecter. Doit respecter, sans préciser. Il faut regarder ensuite comment cet aspect de l'acte d'adoration doit s'achever dans l'homme. Premier achèvement, c'est que l'homme religieux qui adore avec son âme et dans son corps il y a ce point de vue de l'abandon. Si j'adore Dieu, je me remets entre les mains de Dieu. Je reconnais cette dépendance radicale à l'égard de Dieu. Mon âme est créée par Dieu. Si mon âme est créée par Dieu, je suis donc dépendant de Dieu. Et en reconnaissant cette dépendance par l'adoration, je me mets dans l'état de celui qui s'abandonne, qui reconnaît l'autorité de Dieu sur lui. Et cette autorité cette autorité de Dieu sur lui regarde toute sa vie. Donc c'est un état de dépendance radicale qui n'a pas le droit d'être diminué, parce que c'est divin. Et l'homme est naturellement religieux. L'homme doit donc naturellement reconnaître l'absolu de la volonté du Père sur lui. Reconnaître cette dépendance. Et reconnaître cette dépendance, c'est justement ce qu'on peut dire s'abandonner à Dieu. Et c'est la conséquence directe de l'adoration. Vous voyez, c'est l'acte de dévotion. Saint Thomas parle de cet acte de dévotion. Se remettre entièrement au bon plaisir de Dieu. se remettre entre les mains de Dieu et construire sa vie dans cette dépendance. C'est la conséquence immédiate de l'adoration. Mais là encore, ça ne précise pas, vous voyez. Ça ne précise pas. Mais ça ouvre l'homme à tout ce qui est dans cette relation vis-à-vis de Dieu. Une relation reconnue, philosophique, métaphysique, théologique. On doit le reconnaître. C'est très indéterminé, puisque c'est comme ça, mais c'est très indéterminé. Il n'y a rien de déterminé là-dessus. Mais cette dépendance à l'égard de Dieu, qui se traduit par l'adoration, met l'homme dans une totale dépendance à l'égard de Dieu pour tout ce qui est dans le prolongement même de l'adoration. Et ce qui est dans le prolongement même de l'adoration, c'est la guette. C'est se remettre entièrement entre les mains de Dieu pour toute décision qui est dans le prolongement de cet abandon. Voyez, alors ça joue un rôle très important pour la manière de vivre, parce qu'au fond, ça implique une pauvreté radicale à l'égard du bon plaisir de Dieu. Et ce bon plaisir de Dieu est présent pour toute créature humaine. Et l'homme doit respecter cela s'il veut aller jusqu'au bout des conséquences de sa dignité d'être spirituel. Il reconnaît Dieu. Et c'est ce qu'on appellera, si vous voulez, le point de vue de la providence. Dieu garde l'homme. Dieu s'en soucie. Donc, c'est en même temps il y a un respect à l'égard du bon plaisir de Dieu. Et ce bon plaisir peut rester très indéterminé. Ce bon plaisir peut aussi se déterminer. Et alors, dans le prolongement de cet abandon, on comprend comment l'homme peut opter pour une vie contemplative. Qu'il est libre et qu'il le peut. Donc, opter pour une vie solitaire, de contemplatif. Il peut faire ça. Et l'État n'a pas le droit de l'arrêter. L'État peut lui demander de ne pas le faire à telle époque, de ne pas s'installer n'importe où. Ça, l'État peut le faire. Mais l'État n'a pas le droit de lui interdire de vivre cette vie solitaire. Donc, si vous voulez, d'une certaine manière, hein, là, c'est très délicat, ça rentre. Ne plus payer d'impôts pour mener cette vie solitaire. Il devra payer à César ce qui est à César. Mais en tant qu'homme solitaire et ermite, qui ne gagne rien, qui ne fait pas de commerce, et qui prie, et qui adore Dieu. Ça fait une vie que l'État doit pouvoir reconnaître. Et normalement, il doit le reconnaître. Parce que c'est son droit. On a le droit de se consacrer totalement à Dieu. Et personne ne peut rien dire là-dessus. C'est un état présent. Voyez, l'influence de l'acte d'adoration sur toute l'orientation d'une vie. Le fondement d'être un ermite relève de cet acte d'adoration. C'est cet acte d'adoration qui commande cette vision. Alors, jusqu'où peut-il se séparer complètement? Ça revient à la question posée avant. Jusqu'où, à cause du corps, il faut qu'il adore dans une vie commune? Puisque s'il est lié d'une certaine manière à la communauté religieuse, il ne peut pas s'en évader à cause de l'adoration du corps. Donc là, il peut y avoir des conflits, et au fond, pour que la paix demeure, il faut des contrats. Un contrat de justice, mais de justice, comprenez bien, hein, de justice qui respecte la justice divine à laquelle on adhère par l'adoration. Et au fond, là, naturellement, rien n'est précisé. Naturellement, rien n'est précisé. Donc, il pourrait y avoir des lois, mais ces lois devront respecter cette liberté. Des lois qui ne respectent pas cette liberté sont injustes. Et donc, elles n'obligent pas. Elles laissent l'homme libre. C'est pour ça que certains disent qu'on est beaucoup plus libre, au point de vue religieux, dans un État qui ne reconnaît pas Dieu, que dans un État qui veut tout régenter, même le point de vue de l'adoration et de la vie silencieuse. Ensuite, l'adoration va conduire à une contemplation de Dieu. Et au fond, c'est cette contemplation de Dieu qui va donner une exigence à la vie solitaire. Parce que s'il n'y avait pas de contemplation de Dieu, le seul problème serait le point de vue du corps. Tandis que si je regarde attentivement, je vois que ce problème de l'adoration relève bien de l'agume. Il éveille un certain problème nouveau, qui est le problème de la contemplation. Dans quelle mesure l'adoration m'ouvre-t-elle à une contemplation et à la nécessité d'une contemplation, une contemplation naturelle de Dieu? On verra ça la fois prochaine, le passage de l'adoration à la contemplation.